7h et c'est l'actualité que nous retrouvons avec Caroline Salion. Et bonjour Caroline.
Bonjour Cécilia et bonjour à tous.
L'Assemblée de Corse a voté hier soir une large majorité le projet d'écriture constitutionnelle.
Et oui, c'est finalement un texte en trois parties qui a été adopté hier soir peu avant minuit pour l'inscription de l'île dans la Constitution. Celle concernant la communauté insulaire, le pourquoi de l'autonomie a recueilli 62 voix, l'unanimité, moins la voix de Josefa Giacometti Pireda. Puis le bloc regroupant pouvoir législatif et d'adaptation avec 49 voix pour, celle des nationalistes plus 3 voix de droite et celle de Pierre Dionde, 12 contre à droite, plus celle de Josefa Giacometti et puis une abstention toujours à droite, donc celle d'Angèle Chiappini. Et puis il y a eu un troisième paragraphe concernant cette fois le vote des Corses par référendum. Il a obtenu la fameuse unanimité, moins une voix, celle donc de Nadione, tout comme enfin le quatrième vote qui entérine la délibération et ses modalités. Avant cela, ce sont surtout d'interminables discussions sur la question du pouvoir législatif et le fait de lui dédier un alinéa qui ont retardé les débats et les votes. On écoute Jean-Martin Mondoloni, co-président du groupe Unsofionov.
À partir du moment où le piège grossier met dans le même sac des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, des choses non seulement avec lesquelles on est d'accord, mais compromis, on est bien obligé de voter contre. On est tombé d'accord sur l'article 1er qui est en gros le champ de la reconnaissance, et c'est pas le moindre des efforts qu'on pouvait faire, parce que c'est de la corsitude dont on parle. On est d'accord sur le fait qu'il faut consulter, et on n'est pas d'accord sur le droit du pouvoir législatif.
Ce quatrième vote, il sert à quoi ?
À rien, sinon à considérer administrativement, Grantin à dire qu'on a bien reçu un texte. Grand 2, que ce texte a été mis en délibération et qu'il a été, selon les modalités de vote qu'on a retenues, bloc par bloc, adopté dans les termes des trois questions qui seront posées. Et troisièmement, qu'on va transmettre ce texte. Un vote absolument sans portée politique et uniquement administratif.
Et le risque majeur, c'est le détricotage du texte au niveau national. Avait prévenu un peu avant le président de l'exécutif, Gilles Simeoni, qu'il a donc expliqué hier après-midi dans l'hémicycle.
Le risque d'un détricotage et d'un affaiblissement du texte par l'Assemblée nationale et par le Sénat existe. Et nous aurons à faire un travail. Admettons que ce travail réussisse et que le Congrès, in fine, vote un texte qui nous convienne. Ce texte-là ne conduira pas ipso facto au statut d'autonomie. Le statut d'autonomie, quel pouvoir réglementaire et dans quelles compétences ? Quel pouvoir de nature législative et dans quelles compétences ? Quelle garantie pour les collectivités infra, celles qui sont au-dessous de la collectivité ? Quelle autonomie fiscale ? Tout cela a vocation à être débattu et acté par la loi organique. Qui va in fine valider ça ? Les Corses. Et si demain il y a un désaccord persistant, qui tranchera le désaccord ? Les Corses, par la consultation référendaire.
Un reportage signé Hélène Batigne et puis Gilles Simeoni, le président de l'exécutif, sera l'invité de la rédaction tout à l'heure à 7h46. Et puis justement, notre magazine de la rédaction hier, lui, était consacré au modèle économique qui pourrait être mis en place en cas d'autonomie. Quelles compétences en matière fiscale, quelles recettes pour la Corse, autant de questions. Pour le moment, sans réponse et qui renvoie à la future écriture de la loi organique pour y voir un peu plus clair. Invité de ce magazine, Stefano Venturini, vice-président de la CCI de Haute-Corse, il a insisté sur l'importance des infrastructures dans l'île pour pouvoir bénéficier d'un véritable projet économique au sein de l'autonomie, à commencer par la restructuration du port de Bastia.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va le faire et quels sont les plans qui sont mis en place. Je vais reparler d'une chimère, mais je prends l'exemple du port de Bastia. Aujourd'hui, on parle de création d'emplois, on parle de salaire, on parle de bien vivre, on parle d'exportation. On est une île sans port. Je suis désolé, le port date d'il y a 150 ans. On ne peut pas concevoir le développement comme ça. Aujourd'hui, on regarde ce qui peut se passer dans l'avenir. Mais regardons ce qui s'est passé les jours précédents avec l'accident qu'il y a eu aux États-Unis. Aujourd'hui, il a été annoncé que c'était simplement une panne de moteur. Imaginez ce qui se passe si un bateau a une panne de propulsion à l'entrée du port de Bastia. Je ne le souhaite pas, hein, mais la réalité, c'est que toute l'économie corse est bloquée. Est-ce qu'on a les moyens d'y survivre ? Je n'y crois pas. Donc aujourd'hui, si on n'a pas de projet structurant, l'autonomie, c'est très bien. Pour moi, c'est un palier à franchir pour dire voilà où on veut être au niveau de la gestion des déchets, où on veut être au niveau de l'exportation, où on veut être au niveau du tourisme. Qu'est-ce qu'on veut comme tourisme pour la Corse ? Qu'est-ce qu'on veut comme industrie en Corse ? Très vite, il faudra dire aux chefs d'entreprise où ils peuvent se positionner, comment ils peuvent développer leurs entreprises pour qu'eux, après, irriguent tout secteur confondu de l'économie.
Un homme a été mis en examen hier dans le cadre de l'enquête ouverte après l'homicide de Moriane lundi matin. Il a été placé en détention provisoire. Rappelons que la victime, un homme âgé de 38 ans, avait été découverte avec une importante plaie à la gorge. On attend désormais les résultats de l'autopsie pour en savoir un peu plus sur les circonstances de sa mort.
Et au chapitre judiciaire, toujours, Caroline, Jean-Félix Acquahu a été condamné pour favoritisme.
L'information a été révélée en fait par nos confrères de Mediapart. Cette condamnation remonte en fait au 30 novembre dernier et elle est complètement passée sous les radars médiatiques. Le député de la seconde circonscription de Haute-Corse a été condamné à 8000 euros d'amende, dont 5000 avec sursis, à l'époque où il était maire de l'Aude, pour avoir favorisé un entrepreneur, Alban Géron, pour la construction d'un parking et la réfection d'une piste de montagne. Or, Alban Géron, conseiller municipal et membre de Fémois-Corse, et qui a été présent lors du vote du conseil municipal. Les faits avaient été dénoncés par le biais d'une lettre anonyme en 2016. Jean-Félix Acquahu, lui, avait plaidé une erreur de forme. Et puis tout de suite, on va passer donc aux déclarations, aux annonces hier soir de Gabriel Attal. Invité du journal de 20h de TF1, le Premier ministre a confirmé que les impôts des Français n'augmenteront pas malgré le dérapage du déficit public de la France. Interrogé sur l'assurance chômage, Gabriel Attal a expliqué vouloir réduire la durée d'indemnisation des chômeurs de plusieurs mois, sans descendre quand même sous les 12 mois pour favoriser le retour à l'emploi. Cette nouvelle réforme est déjà contestée par les syndicats.
Et puis un séminaire sur la lutte contre les atteintes environnementales.
Il était organisé ces derniers jours à Bastia, police, gendarmerie, procureur et même la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Tout le monde était présent. Le trafic de déchets à l'échelle nationale et internationale a été évoqué, notamment les mécanismes utilisés par les groupes mafieux et qui peuvent rapporter gros. On écoute Jean-Yves Lourgouillou, il est procureur de la République adjoint au parquet de Marseille.
Traditionnellement, le schéma le plus classique, c'est de prendre des marchés pour le traitement de déchets, récupérer l'argent où vous êtes supposé derrière pouvoir traiter correctement les déchets, notamment les recycler. Et en réalité, ces déchets, vous ne les traitez pas, vous les enfouissez, vous les stockez dans des hangars et que vous laissez à l'abandon. Pour autant, vous avez récupéré l'argent, notamment de marchés publics ou de marchés privés. Donc, faites une plus-value qui est assez importante. Vous pouvez aussi, quelquefois, frauder sur les taxes. C'est des phénomènes assez classiques, mais qui, au final, se terminent toujours de la même manière, c'est-à-dire un abandon des déchets, et avec des déchets qui peuvent avoir des conséquences environnementales sur la terre, sur l'eau et parfois sur l'air, et avec aussi parfois des incendies. Quand vous avez des masses importantes de déchets qui sont laissés à l'abandon, il faut savoir qu'il peut y avoir des incendies provoqués par l'homme, mais qui parfois aussi sont spontanés, parce que ces déchets-là sont des déchets qui peuvent facilement prendre feu.
Et puis dans le feuilleton judiciaire du Trésor de l'Ave, Félix Biancamaria et Jean-Michel Richaud ont été condamnés hier pour recel de biens maritimes culturels.
12 mois de prison avec sursis simple pour Félix Biancamaria, 8 mois pour Jean-Michel Richaud, puis une amende solidaire de 200 000 euros. Les deux hommes comparaissaient pour le plat en or issu du pactole antique qui avait ressurgi à Roissy dans les bagages de Félix Biancamaria. La défense de ce dernier d'ailleurs a décidé de faire appel. Voilà toute l'actualité bien sûr sur nos réseaux sociaux et sur Bleu RCFM.